Vous écoutez RTL.
Laissez-vous tenter. RTL maintenant.
Matin. Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Florin.
Et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Si je vous dis le bal des Lazes, la Java de Broadway, vous me dites
Pierre Delanoë.
Bravo, oui. Bah oui, il a écrit 3000 chansons. On en retrouve d'ailleurs 60 dans un triple album qui vient de sortir. Dans un instant, on va se replonger avec vous, Stephen Bellery, dans l'œuvre de ce parolier exceptionnel. On écoutera également les confidences d'une de ses filles. Ce soir, France 2 lance un nouveau divertissement présenté par Marianne James, À vos pinceaux, un programme dans lequel 10 peintres amateurs vont s'affronter. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque. Charlotte Arrigoni nous a préparé ses express du jour. Il y a du lourd.
Oui, bah, je vais pas vous dire non en même temps. Bah,
évidemment. Et puis une idée de sortie, si vous êtes à Paris, le peintre Bernard Buffet fait l'objet d'une rétrospective au musée d'art moderne. Ça, Monique lourd, Younes, hein, la visiter pour nous, Monique.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
On va se souvenir d'un grand monsieur à présent. Il y a 10 ans, jour pour jour, mourait Pierre Delanoë. C'est l'un des auteurs les plus talentueux et prolifiques de la chanson française. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Un coffret rassemblant ses plus beaux textes vient de sortir.
Oui, sobrement intitulé Pierre Delanoë, ses interprètes, 3 CD, 60 chansons, dont un bon paquet de tubes. Le nombre de succès qu'il a écrit est tout simplement stupéfiant. Pierre Delanoë est l'auteur de ceci. Il a griffonné ça pour Gilbert Bécaud.
Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie?
Pierre Delanoë a écrit pour Michel Fugain.
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant.
Pour Gérard Lenormand.
Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas.
Ou encore pour Michel Sardou.
C'est peut-être pas la voix de vrai, la Java de Broadway.
Oui, mais c'est elle qui plaît.
Encore un tube signé Pierre Delanoë, le bal des Lazes pour Michel Polnareff, c'est lui aussi.
Ça fera 4 lignes dans les journaux.
Et même cette chanson de Dalida.
Laissez-moi danser, laissez-moi.
La liste est hallucinante. Ouais. J'ai rencontré Sylvie, l'une des filles de Pierre Delanoë. Elle se souvient de son papa, l'auteur de plus de 3000 chansons.
Il était toujours dans son bureau. Quand on arrivait à la maison, moi j'allais directement dans son bureau. Et il pouvait aussi bien nous demander notre avis d'ailleurs sur ce qu'il était en train d'écrire et accepter tout à fait les critiques. Il écrivait sur des cahiers, toujours. J'ai tous ses cahiers. Le premier, il date de 1953 où il a écrit « Mes mains ».
Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? Qu'est-ce qui fait tourner le monde ?
Un cahier, un stylo, même sur sa table de chevet pour s'il a une idée au milieu de la nuit, il écrivait tout le temps. Alors lui, il se plaisait à dire qu'il était un tailleur pour bossu. C'est-à-dire qu'il savait absolument s'adapter à l'état d'esprit des chanteurs. Parce que, bon, il avait, au niveau politique, il était plutôt de droite. Et il a très bien travaillé avec Michel Fugain, qui lui avait été élevé par un père communiste. Donc il était capable d'écrire, je pense, pour tout le monde.
C'est un beau roman.
Alors, il a eu mille vies, hein, Pierre Delanoë. Je crois qu'il a notamment dirigé une grande radio. Comment est-ce qu'il a commencé à écrire des chansons?
Eh bien, presque par hasard, au début, pour s'amuser en tout cas, Sylvie Delanoë.
Maman avait un jeune frère qui composait, qui passait sa vie au piano. Mon père, bon, bah, s'est amusé à écrire des textes sur les musiques de son beau-frère. Et puis, ils se sont pris au jeu, ils ont fini par écrire vraiment des chansons rigolotes, en général, et ils ont fait des cabarets ensemble. C'est comme ça qu'il a changé de nom, car il était fonctionnaire. Il pouvait pas aller dans les cabarets avec son nom de fonctionnaire.
Qui lui tend la main le premier? Comment ça se passe?
Mon père connaissait Jean Nohain depuis très jeune et c'est Jean Nohain qui lui a présenté Marie Bizet. Et Gilbert Bécaud, qui s'appelait François Silly, était le pianiste de Marie Bizet.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, l'orange.
Il a rencontré Gilbert Bécaud comme ça. Et puis un jour, ils ont écrit une chanson et puis ça a démarré. Bah, ils se sont tendus la main réciproquement parce qu'ils ont démarré ensemble. Bah, ils ne se sont jamais quittés. Enfin, pour moi, c'était comme le frère de mon père. On était vraiment très liés. Ouais.
avec les peines, l'amour et la haine coulant dans mes veines.
Je t'appartiens de Gilbert Bécaud, écrite par Pierre Delanoë Bécaud et avec Nana Mouskouri et Michel Sardou, l'un des trois artistes pour lesquels il a le plus écrit. On retrouve toutes ses chansons dans le coffret Pierre Delanoë, ses interprètes, 16 euros seulement.
On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore.
Pierre Delanoë lui avait écrit la chanson « Derrière l'amour ». Johnny Hallyday vous donne rendez-vous ce soir sur France 2. La chaîne diffusera à 22h55 son dernier concert. Vous avez appelé le chanteur, hein, Steven.
Ouais, son Resté Vivant Tour vient d'ailleurs de sortir en CD et en DVD enregistré à Bruxelles fin mars. Il passe donc également ce soir à la télé. Cette tournée de 88 dates était l'une des meilleures du chanteur, la plus rock probablement. Pourquoi est-il revenu à ce son brut? C'est la question que j'ai posée à Johnny Hallyday.
Je suis revenu à mes premiers amours parce que je me suis dit pourquoi je vais faire de la musique que j'ai pas vraiment envie de faire. Alors j'ai voulu retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire le rock'n'roll, la country, des jolies chansons d'amour aussi bien sûr. Surtout je suis très heureux d'avoir pu enregistrer le spectacle trois jours après les événements de Bruxelles, et ce qui était un moment quand même assez fort, aussi bien pour le public que pour moi. J'ai que des bons souvenirs dans cette tournée. Je crois que les gens ont pris autant de plaisir à le regarder que nous de le faire. C'est un spectacle qui me tient à cœur.
De chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut pas place.
Le Resté Vivant Tour de Johnny Hallyday est diffusé ce soir à 22h55 sur France 2. Il est également disponible en CD et en DVD.
Et je pense qu'on a tous eu la chance de voir ici Johnny Hallyday en concert. C'est toujours un spectacle, hein. C'est toujours un bonheur.
Formidable.
Merci Steven Bellery. Allumez la télé, Isabelle Morini-Bosque, vous avez les audiences.
Les audiences d'hier avec Médiamétrie, tout est dans un mouchoir de poche, comme on dit. En tête, Safari sur TF1, mais 4 400 000 téléspectateurs et 20% du public, c'est pas la gloire. En deuxième position, avec près de 3 millions de téléspectateurs, Sherlock sur France 2 à 20h55. Donc 13% du public sur la 2. Et juste derrière, Epic, la bataille du royaume secret sur M6, dessin d'animation, qui a été suivi par 2 600 000 téléspectateurs et près de 12% du public sur M6. Le festival du cirque a quelques 100 000 personnes de moins seulement. Et alors côté TNT, c'est le repas de famille sur C8 qui est largement en tête, 1 200 000 téléspectateurs. C'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire.
Et dans une poignée de secondes, c'est Sherlock Arrigoni, évidemment, qui nous attend.
Oh,
allez, à tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Jérôme Florin.
Et avec Charlotte Arrigoni. Bonjour Charlotte.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
On commence par cette info surprenante qui concerne l'auteur de cette bande originale.
Vous aurez bien sûr reconnu la musique de Star Wars composée par John Williams. C'est bien John Williams a certes composé la musique de Star Wars et pourtant il n'a jamais vu un épisode de la saga.
C'est pas vrai.
Oui, le chef d'orchestre américain a récemment confié qu'une fois la mélodie calée sur les images, eh bien il n'a pas le réflexe d'aller au cinéma voir le résultat. Des gens trouveront peut-être ça étrange, dit-il, mais je n'écoute ma musique que très rarement. Il sera tout de même le compositeur des volets 8 et 9 attendus au cinéma en 2017 et 2019.
Et toujours concernant Star Wars, on a des nouvelles de Carrie Fisher.
L'interprète de la princesse Leia, âgée de 60 ans, a été victime d'une crise cardiaque vendredi dernier lors d'un vol Londres-Los Angeles. Il a fallu plusieurs minutes de réanimation intensive pour la ramener à la vie avant son transfert aux urgences. Et bien sur le réseau Twitter, sa mère, Debbie Reynolds, écrit « Carrie est dans un état stable. S'il y avait un changement, nous vous le transmettrons. Pour tous les fans et les amis, je vous remercie pour vos prières. »
Et en France, Karine Le Marchand révèle des projets surprenants.
L'animatrice d'M6 a accordé des interviews à Télé 7 Jours et au Républicain Lorrain. Deux entretiens dans lesquels elle évoque son émission Ambition Intime, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et Karine Le Marchand confie deux choses. Tout d'abord, qu'elle aimerait bien faire une émission spéciale autour du prochain gouvernement, et ce, dans les 6 mois après sa nomination. Mais ce n'est pas tout. Elle se verrait bien aussi interviewer Donald Trump, le prochain président des États-Unis. Il a un parcours incroyable, dit-elle, même si elle craint de ne pas se faire des amis avec ce projet.
Bien. Vous avez aimé Sex and the City. Une bonne nouvelle, les 4 copines de New York reviennent. They are back.
Yes. Mais on ne parle pas là de la série, mais du film. Il y a déjà eu 2 volets. Eh bien, les 4 actrices ont donné leur accord pour un 3e épisode. Le début du tournage serait imminent, selon plusieurs médias américains. On devrait donc retrouver Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha très prochainement sur grand écran. Évidemment, on vous tient au courant pour la date de sortie en France.
Il y a une Charlotte dans les 4, c'est pas vous?
Non.
Merci Charlotte Reagan. C'était les express.
Faut déjà qu'elle se réconcilie.
Isabelle Morini-Bosque.
Oui,
voilà, j'ai noté ce soir le Cirque du Soleil sur Arte et les vacances de Ducobu sur TF1.
Oui, Ducobu, quand craque absolu apparu dans le journal de Mickey, Ducobu qui a du génie pour copier sur la meilleure de la classe, Léonie Grattin. Ce soir, on le retrouve en vacances. Il passe donc du banc de l'école et du banc de touche au banc de poisson. Ce film sorti en avril 2012 a été vu par près de 1 100 000 spectateurs en salle, sans toutefois, faut bien le dire, faire trop de vagues.
Mais votre temps fort, c'est À vos pinceaux, une nouvelle émission présentée par Marianne James à 20h55 sur France 2.
Oui, autre prodige pour Marianne James. À vos pinceaux, c'est un télécrochet. C'est pas de la télé-réalité, je vous en prie. Et même s'il va y être question du couteau et d'huile, c'est pas une nouvelle émission culinaire, la énième. Non, comme son titre l'indique, c'est un programme sur la peinture. C'est même le premier concours destiné à des peintres amateurs. 10 exactement âgés de 17 à 63 ans. Ces artistes vont s'affronter dans des épreuves imposées ou libres. Pour les conseiller, les juger, 2 pros, le professeur d'arts appliqués Bruno Vanacci et le rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine, Fabrice Bousteau. Et quant à l'animatrice Marianne James, folle de peinture en général et de Magritte en particulier, elle a un vrai travail de soutien, de consolation, de stimulation. Cela se sent dès l'annonce de la première épreuve.
Chers amis, chers peintres, je sens votre envie de peindre. Alors, place au concours. À l'issue de ce concours, l'un d'entre vous sera désigné meilleur peintre amateur de France. Mes petits pinceaux. Vous permettez que je vous appelle mes petits pinceaux? Voici notre première épreuve, le modèle imposé. Et le modèle... Non, c'est pas moi. Non, le modèle imposé, c'est cette frégate corsaire du 18e siècle qui s'appelle l'Étoile du Roi.
Magnifique bateau.
Et ça vous a plu ?
Alors oui, parce que la peinture de portrait, c'est ma passion et mon premier métier. En revanche, je retrouve ce qui m'agaçait déjà aux Beaux-Arts, cette espèce de méfiance qu'ont les pros et les profs face aux figuratifs dits classiques. Il faut sublimer la réalité, etc. Ça me fatigue un peu. Ça, je peux pas le voir en peinture ou plutôt l'écouter. En revanche, j'adore ce qu'on voit sur l'écran et ce qu'on y apprend. Par exemple, quand Fabrice Bousteau évoque le radeau de la Méduse de Géricault.
Le radeau de la Méduse de Théodore Géricault. C'est une frégate qui a échoué en 1816. Géricault, il a essayé de retranscrire un moment tragique de ce naufrage. C'est un travail journalistique, Géricault. Il récupère des informations auprès de 2 rescapés pour avoir tous les détails des scènes terribles, hein, où des hommes se sont battus, jetés à l'eau, d'autres ont été noyés. Géricault va construire une maquette en bois à l'échelle dans son atelier. Tous ces personnages vont être reconstitués avec de la cire. Théodore Géricault, il est beau, jeune, brun, ténébreux.
Non, là, mais je l'aime, celui-là.
Mais j'essaye. J'essaye de faire en sorte que tu l'aimes, Marianne. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se rase la tête totalement alors que les hommes portaient les cheveux longs. Il se fait une promesse. Je sortirai pas de mon atelier tant que j'aurai pas fini ma toile.
Oui, les artistes, eux, ils ont 3 heures seulement. Alors, la deuxième épreuve, c'est un portrait au fusain qui doit être ressemblant en 2 heures. Je vous assure que c'est vraiment difficile. Et qui pose, ben, Bruno Solomon, en plein tournage de Fais pas ci, fais pas ça. On rentabilise les talents maison. Et c'est un modèle plutôt remuant, Bruno Solomon.
Il y a eu Mona Lisa, puis il y a moi.
Il a un visage assez féminin, en fait.
Puis s'il me jette des regards pendant que je vous parle, ça me déconcentre.
Vous n'êtes pas obligé de sourire. Hein.
Toi, tu préfères que je fasse la gueule? Si vous voulez que je fasse un truc en particulier, n'hésitez pas à me dire.
Eh ben, prendre la pause, idéalement.
Ouais, ferme ta gueule, c'est ça? D'accord.
Ce serait idéal.
D'accord.
Que la coiffure est impeccable, du coup, ça tient bien. Mais au moins, il y a un truc qui bouge pas, quoi.
Ah ouais, vas-y. Ça paraît rien, mais rien faire, c'est pas facile. C'est pour toi, Marianne, que je fais ça aussi, tu sais.
C'est vrai?
Oui. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
Voilà, il est également dans Ducobu sur TF1. La dernière épreuve, les conduits dans la réserve de Thoiry, c'est doublement au poil. Alors, conclusion, moi j'aime beaucoup ce programme novateur, même si on a le droit de ne pas pouvoir encadrer certains jugements. Cela dit, énorme inconnu sur l'audience. Hein. La peinture, c'est pas la cuisine, c'est plutôt clivant. Et je pense qu'il y aura un vrai décalage entre les opinions du jury et celles du public.
Inconnu sur l'audience, en tout cas, il y a de l'ambiance, on l'entend. On continue à parler peinture dans quelques secondes avec Monique Younes qui a vu Buffet. Elle va tout nous dire.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Jérôme Florin.
Monique Younes.
Oui.
Oui, vous nous parlez ce matin de l'un des peintres les plus populaires et les plus controversés de son temps, Bernard Buffet. Il n'y avait pas eu de rétrospective à Paris depuis 1958. Eh bien, le musée d'art moderne répare aujourd'hui cet oubli.
Oui, puisque Bernard Buffet a beaucoup peint, ça lui a été reproché. Il a été célèbre à 28 ans, mais à un point qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Certains le considéraient comme le jeune rival de Picasso. C'est en partie ce qu'on ne lui a pas pardonné. Et surtout le fait qu'il a très vite vendu ses toiles à de riches collectionneurs aux quatre coins du monde. Donc, il a été méprisé par les musées français. Imaginez-vous que l'État ne lui a acheté qu'un tableau en 1947. Il avait 19 ans. Un tableau qui représente un coq mort. Comme toutes les peintures de jeunesse de Buffet, le thème n'était pas très très joyeux. Et pour cause, m'a dit Pierre Berger, qui a partagé sa vie entre 1950 et 1958.
Il sortait de la guerre, c'est-à-dire d'un moment très dur à tout point de vue. Il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de quoi se chauffer, il n'y avait pas de quoi s'habiller. Et puis, c'était l'occupation. On ne sait pas ce qui se passera le lendemain, et si même on sera vivant le lendemain. Et c'est cette angoisse-là qui transparaît dans la peinture de Buffet.
Alors, dès ses débuts, Bernard Buffet a inventé un style et une signature, un graphisme très aigu, très reconnaissable, tant pour les natures mortes, les tableaux historiques, les nus, que pour les portraits ou les autoportraits.
Pourquoi il est devenu peintre maudit? Parce qu'il était très riche?
Vous savez, c'est le grand paradoxe de Bernard Buffet. En 1955, il a été désigné comme le jeune artiste le plus important de l'après-guerre. En 1956, il roulait déjà en Rolls. Et dans l'exposition que lui consacre aujourd'hui le musée d'art moderne, vous verrez les reportages hallucinants que lui consacrait Paris Match. Par exemple, en 1957, il devait être escorté comme une rockstar pour sortir de la galerie Charpentier où il exposait, tellement ses admirateurs se pressaient pour le voir, le toucher, lui demander un autographe. Il a sans doute trop peint et trop montré, confondant la célébrité et la réputation. Mais cette gloire prématurée n'était pas la seule raison du malentendu autour de sa réputation de peintre, m'a expliqué Pierre Berger.
Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Buffet? On peut reprocher que, autant un garçon de 20 ans peigne des harengs sorts ou des poulets efflanqués, c'est la vie. Il peignait ce qu'il voyait, ce qu'il connaissait, mais qu'avec une Rolls-Royce, il continue de peindre ces mêmes arranceurs, ces mêmes poulets efflanqués, là, peut-être, on peut se poser des questions. J'ai vu ça, et j'ai rien dit, et j'ai vu ça, et j'ai rien fait. Alors, je me sens, d'une certaine manière, responsable aussi. Et j'ai vécu avec ça, depuis toujours. Mais bon, j'étais très jeune, j'avais 25 ans, 26 ans.
Une des parties émouvantes de l'exposition au musée d'art moderne, c'est celle qui montre Bernard Buffet jeune avec Pierre Berger. Ils vivaient tous les deux en amoureux dans une bastide que l'écrivain Jean Giono leur avait prêtée au-dessus de Manosque. Bastide qu'ils ont quittée pour louer une ferme à Nance, que l'on voit dans l'exposition en peinture, en photo, une ferme d'un dénuement extrême.
Il n'y avait pas d'eau courante, vous voulez tout savoir? On avait un réservoir qu'il fallait remplir d'eau par un moteur qui était dans un puits qui était à 150 mètres, au moins. Alors je faisais ça tous les jours. Et puis, on se lavait à l'eau froide, pratiquement. C'est la plus belle période de ma vie, évidemment. Et c'est la sienne, j'en suis sûr. Comment pourrait-il en être autrement?
On dit souvent, Monique, que Buffet a toujours peint la même chose.
Eh bien, un des mérites de l'exposition du musée d'art moderne, c'est de montrer le contraire. Sa peinture, toujours aussi virtuose, a beaucoup évolué de 1947 à 1999. Et à la fin de sa vie, atteint de la maladie de Parkinson, il peignait avec ses doigts des personnages décharnés en costume Renaissance. Et ne pouvant plus peindre à cause de sa maladie, Buffet a préféré se suicider en 1999. Il avait 71 ans et disait ne pas vouloir passer le millénaire. Bernard Buffet, c'est un destin hors du commun que vous découvrirez au Musée d'Art Moderne à Paris jusqu'à la fin février.
Merci Monique, merci à toute l'équipe. Après Bernard Buffet, évidemment, Julien Courbet sur RTL.